Radio Kapi.
Jocelyne Moussaou à la présentation. Partenariat RDC États-Unis, une cinquantaine d'élus américains dénoncent le manque de transparence dans les négociations sur l'exploitation des minerais stratégiques du sous-sol congolais. Ces parlementaires ont adressé hier une lettre au président Donald Trump et à son secrétaire d'État Marco Rubio. Recrudescence inquiétante du choléra dans la province du Sankuru. Lusambo, Mpanya, Mutombo et Benadi Bele sont touchés avec plusieurs décès enregistrés. L'invité de ce journal est Roland Mouguicho, responsable des infrastructures rurales. Il nous parlera des sites récemment validés par le projet d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR pour le développement des chaînes de valeur agricoles. Bonsoir à tous. Les négociations dans le cadre du partenariat minier stratégique entre Kinshasa et Washington continuent de susciter des réactions. Une cinquantaine de parlementaires américains ont dénoncé hier lundi le manque de transparence et de consultation du Congrès dans les négociations menées par les États-Unis et la RDC autour de l'exploitation des minerais critiques dont regorge le sous-sol de la RDC. Le résumé de Poli Mouzalia rendu ici par Lievin Bwinga.
Dans une lettre ouverte adressée au président Donald Trump et à son secrétaire d'État Marco Rubio, 52 élus issus de l'opposition démocrate dénoncent l'opacité des négociations en cours entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ces discussions portent sur l'exploitation des minerais critiques du sous-sol congolais tels que le cobalt, le coltan, le cuivre et le lithium, des ressources essentielles pour les technologies de pointe. Les parlementaires américains exhortent leur gouvernement à garantir un processus transparent et participatif. Ils insistent sur le fait que l'exploitation de ces ressources ne doit pas se faire au détriment des populations congolaises. Ces négociations s'inscrivent dans un contexte plus large, alors que Washington joue également un rôle de médiateur dans les pourparlers de paix entre Kinshasa et Kigali, en vue de stabiliser l'est de la RDC en proie à l'insécurité et aux violences du M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. L'accord stratégique en discussion entre Kinshasa et Washington vise à offrir aux entreprises américaines un meilleur accès aux ressources congolaises en échange d'un soutien en matière de sécurité pour la RDC.
Et puis, le consortium Congo n'est pas à vendre exige une transparence totale dans le processus des négociations des termes des accords entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. L'un des cadres de cette structure citoyenne dire que chacun a livré cette information lors d'un entretien accordé hier lundi à Radio Okapi. Il exhorte néanmoins le gouvernement à veiller au respect des dispositions du code minier de la RDC dans tout accord de coopération portant sur les ressources naturelles congolaises. Dirk Chaka est au téléphone de Blaise Ndongala.
Les négociations en cours entre d'une part la République démocratique du Congo et le Rwanda et d'autre part les États-Unis et la RDC, nous les suivons de manière particulière parce que nous voulons attirer l'attention des dirigeants et des parties prenantes à ces négociations sur un certain nombre de conditions fondamentales et des lignes directrices qui doivent guider les négociations en cours afin de garantir des partenariats justes, équitables et respectueux de la souveraineté, des intérêts de la RDC et des Congolais en général. Voilà pourquoi nous avons appelé les dirigeants et les parties prenantes à ces négociations à davantage de transparence, de responsabilité et de redevabilité pour pouvoir garantir que la RDC tire le maximum de profit de ce partenariat et surtout qu'il ne brade pas sa souveraineté économique. La RDC devrait et est souveraine face à l'exploitation de ses ressources naturelles. Et même si elle devrait négocier avec un partenaire sur la manière de pouvoir exploiter ses ressources, elle en a toujours la souveraineté.
Direction le Nord-Kivu, où les agences de transport en commun basées à Beni ont suspendu leurs activités depuis hier lundi sur l'axe Beni-Bunia via Eringeti, Kainama et Boga, le long de la route nationale numéro 4. Cette décision fait suite à une embuscade attribuée aux ADF qui avait visé samedi une voiture appartenant à l'une de ces agences au village de Lessé, causant la mort de 3 civils et la disparition d'autres personnes. Les transporteurs exigent des autorités la garantie de leur sécurité avant toute reprise de la circulation sur ce tronçon. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Cette décision intervient après la découverte lundi des corps de 3 passagers dans la forêt de l'Est, lieu de l'embuscade sur l'axe Eringeti-Kainama. S'y ajoute la découverte d'un 4e corps, celui du chauffeur d'une agence de transport en commun de Butembo, calciné dans sa voiture lors d'une attaque survenue dans la nuit de dimanche à lundi à Boga, dans la partie sud du territoire d'Irumu. Le corps a été rapatrié à Butembo pour inhumation. Les conducteurs dénoncent l'insécurité persistante sur l'axe Beni-Bounia et ont décidé de suspendre tout mouvement sur cette route jusqu'à ce que leur sécurité soit rassurée. Fiston et leur porte-parole. En ce moment, nous avons décidé de sécher tout mouvement. Nous attendons d'être sécurisés et si nous en sommes convaincus, nous reprendrons les activités sur cette route. Nous demandons au gouverneur de s'impliquer pour nous apporter une réponse à cette situation. Sinon, nous durcirons notre décision et tous les mouvements seront arrêtés et suspendus. Nous stationnerons nos véhicules dans nos agences et abandonnerons catégoriquement cette route, peu importe le chaos qui s'en suivra, car nous en avons assez. Jusqu'à présent, l'armée n'a pas corrigé cette situation. La route Beni-Bounia est d'une importance capitale. Elle relie le Nord Kivu à l'Ituri et constitue également une voie d'échange commercial majeure entre ces deux provinces. Beni, Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Recrudescence des cas de choléra dans la province du Sankuru. Après la ville de Lusambo et la zone de santé de Mpanya Mutombo, l'épidémie de choléra touche actuellement l'aire de santé de Kavu dans la localité de Benadibele. Déjà 5 cas, dont 2 décès, ont été enregistrés hier lundi. Le ministre provincial de la Santé parle du manque de tests rapides pour diagnostiquer les échantillons. Esther Dalafina nous en dit plus.
Depuis la première semaine épidémiologique jusqu'à ce jour, la province du Sankuru a atteint plus de 10 000 cas de choléra, dont 83 décès. Le ministre provincial de la Santé précise que l'épidémie touche la ville de Lusambo et la zone de santé de Mpanya Mutombo. Selon la même source, l'épidémie s'est propagée dans la zone de santé de Benadibele.
Lusambo, 11 cas et 2 décès. À Mpanya Mutombo, 9 cas et 2 décès. Et à Benadibele, l'aire de santé de Kavu a enregistré 5 cas et 2 décès. Donc cette situation confirme la persistance de l'épidémie.
Docteur Tony Elongue signale par ailleurs le manque de quelques intrants.
Les moyens manquent. Absence de tests rapides, pénurie de kits de prise en charge et manque de moyens pour transporter les échantillons.
Face à cette situation, Maître Jonathan Munyoka, président de la dynamique de la société civile, demande aux autorités à tous les niveaux de venir en aide à la province du Sankuru.
Demandons à toutes les autorités nationales compétentes, provinciales et même mondiales de venir en aide surtout à la population de Lusambo.
En attendant les solutions, le ministre provincial de la Santé propose l'intensification des sensibilisations à l'endroit de la population. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Et puis, dans la province du Maniema, 3131 personnes, dont 352 enfants, ont été enregistrés comme malades de la tuberculose au premier trimestre 2025. À ces chiffres s'ajoutent 587 patients en attente de prise en charge, selon le médecin coordonnateur provincial intérimaire du programme des luttes contre la lèpre et la tuberculose. Le docteur Ulumbu Motongo Jean-Luc explique que cette flambée est en partie due à la décision des États-Unis de suspendre leur financement au pays. Il appelle à une intervention urgente des autorités. Écoutez le docteur Ulumbu Motongo au micro de Florence Kizalunga.
Vraiment, il y a un impact visible au niveau de la province du Maniema, d'autant plus que pour le premier semestre, nous avons enregistré 3131 malades pour la tuberculose sensible, toute forme. Et parmi ces malades, nous avons 352 enfants, ce qui donne la proportion de 11,2% des enfants qui sont touchés par la tuberculose. Et à part cela, nous avons 587 malades qui sont en file d'attente de traitement. Et nous ajoutons aussi patients souffrant de la tuberculose pharmaco-résistant. Donc, il y a un impact très considérable et ces malades sont en attente de médicaments. On ne sait pas quand est-ce que les médicaments vont arriver. Il y a plusieurs facteurs. Les parents qui sont diagnostiqués ne sont pas mis sous traitement si tôt, ce qui fait que la chaîne de contamination ne fait que continuer et comme le système immunitaire des enfants est faible, les enfants, ils sont vulnérables à attraper la tuberculose. Ce que nous demandons aux partenaires techniques et financiers et le gouvernement, d'avoir un œil regardant dans les deux programme lèpre et tuberculose parce que ce sont des populations qui sont en train d'en pâtir, qui sont victimes de cette maladie.
Le retour de la saison pluvieuse à Kinshasa, c'est dans quelques semaines. Mais les travaux de réhabilitation de certaines voies et autres infrastructures de la capitale se distinguent par leur lenteur, tandis que d'autres avancent. Du côté de l'avenue Régis des Eaux dans la commune de Ngalima, des dégâts ont été enregistrés lors des dernières pluies avant l'entrée de la saison sèche, notamment l'évolution de l'érosion se trouvant au quartier Mamayemo. Depuis, les travaux de construction d'un collecteur d'eau ont été lancés, mais ces travaux traînent, selon les habitants de ce coin. Des ouvriers trouvés sur place parlent plutôt d'une évolution positive dès ce chantier. Les détails avec la Kinzao.
Sur place, la population se dit satisfaite quant à ces travaux de construction, mais elle exprime également ses inquiétudes à l'image de Michael Moussei, résident de ces quartiers.
Cette érosion a emporté beaucoup de maisons, comme vous le voyez vous-même. L'État a fait les efforts pour qu'on puisse enterrer l'érosion. Les premières années que les travaux traînent, dans ce sens que vous voyez, il nous reste seulement peut-être un mois et demi pour que la pluie revienne. Alors, ils doivent travailler rapidement pour accélérer les travaux, pour donner aussi les résultats meilleurs que tout le monde attend de ça. Les travaux sur le sont moins nombreux.
Les travaux sont lancés depuis 2024. D'après l'ingénieur de l'OVD trouvé sur place, après le collecteur d'eau suivra la construction de la route. Elle est en terre jusque-là. Cette érosion a détruit des tuyaux de la régie des eaux, mais a aussi fait tomber des poteaux d'installation de la SNEL. C'est que déplore Maman Magui Luzolo.
L'eau ne coule plus dans nos robinets. Nous partons très loin pour puiser de l'eau. Il y a également des difficultés liées au manque de courant électrique. Qu'ils viennent nous construire cette route.
Ces travaux ont connu plusieurs arrêts liés au financement. Ils ont par exemple été suspendu de mars à avril dernier, d'après les ouvriers trouvés sur place. Et c'est depuis le mois de mai qu'ils ont repris.
À Goma, 5 personnes calcinées, 2 autres grièvement blessées et des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'un incendie survenu dans 2 maisons voisines ce mardi au quartier Kieshero sur l'avenue Abattoir dans la commune de Goma. Un court-circuit électrique serait à la base de ce drame, affirment des sources concordantes sur place. Plus de détails avec Alain Irung.
Cet incident malheureux s'est déroulé vers 3h du matin ce mardi, selon nos sources. Le courant électrique serait à la base de ce drame. D'après les témoignages recueillis sur place, un câble électrique est tombé sur l'une des maisons pendant que les victimes dormaient profondément. Bilan, dans la première maison sur laquelle le câble est tombé, l'on a enregistré 3 personnes décédées. 2 autres ont été grièvement blessées. Elles ont été sauvées de justesse puis conduites d'urgence dans une structure médicale de la place. Le feu s'est rapidement propagé vers la maison voisine, faisant également 2 morts. Toujours selon nos sources, tous les biens dans les 2 maisons ont été calcinés par le feu. Alerté par les voisins, le véhicule anti-incendie de la mairie de Goma est arrivé sur place pour éteindre le feu, mais en retard, ont indiqué nos sources. Les 2 maisons ont été réduites en cendres, selon les mêmes sources.
Autre nouvelle, le vice-premier ministre de l'Intérieur saisit le Conseil d'État pour initier une procédure judiciaire à l'encontre de Joyce Tunda, maire adjointe de Lubumbashi. Dans une correspondance adressée au Conseil d'État et qui est parvenue hier lundi à Radio Okapi, le vice-premier ministre de l'Intérieur accuse Joyce Tunda de faux en écriture. Cela intervient après la confusion à la tête de la mairie de Lubumbashi. Joyce Tunda, maire adjointe, et son titulaire, Patrick Kafuimbi, se dispute le contrôle de la mairie de Lubumbashi. Explication Paul Amunanga.
Dans la correspondance adressée au Conseil d'État le 4 août dernier, le vice-premier ministre de l'Intérieur dénonce l'usage par la maire adjointe de Lubumbashi d'un document dont la référence serait erronée. Madame Tunda Kazadi Joyce a fait usage d'une pièce portant sur un recours préalable qu'elle m'a adressé, référencé sous le numéro 4107, déposé le 10 mars 2025, écrit le VPM de l'Intérieur. Cependant, après vérification, Jacquemain Chabani affirme que ce numéro ne correspond pas au document mentionné par la maire adjointe. Pour rappel, le maire intérimaire et son adjointe se disputent les fauteuils de l'hôtel de ville de Lubumbashi. L'adjointe Joyce Tunda, se sentant lésée, a saisi le Conseil d'État pour qu'elle soit réhabilitée comme maire intérimaire. Cette haute juridiction administrative s'est déjà prononcée en suspendant l'arrêté du vice-premier ministre de l'Intérieur ayant nommé Patrick Kafuimbi comme maire intérimaire de Lubumbashi et en réhabilitant Joyce Tunda à ses postes. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Ukraine, en amont de la réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 15 août prochain, aucun signe ne montre que la Russie s'est préparée à une situation d'après-guerre. Au contraire, a déclaré Volodymyr Zelensky, qui ne sera pas présent en Alaska pour discuter du sort de l'Ukraine. La Russie intensifie ses efforts. Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont insisté ce mardi sur la nécessité pour les Ukrainiens de pouvoir décider de leur avenir.
L'invité.
Notre invité, c'est Roland Mouguichot, responsable des infrastructures rurales. Il nous parle des sites que le projet d'appui au développement rural, inclusif et résilient, PADRIR, vient de valider pour le développement des chaînes des valeurs agricoles. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Roland Mouguichot, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Aujourd'hui, PADRIR revient de valider les sites où on devra ériger des écoles, des centres de santé ainsi que des centres nutritionnels. Quels sont ces sites?
Oui, merci madame. Dans le volet d'appui aux infrastructures sociales de base, dans la deuxième composante du PADRIR qui est des infrastructures, nous venons effectivement de valider 10 sites qui devront accueillir des écoles, 8 centres de santé et 8 centres nutritionnels. Et ces sites sont répartis sur les 7 territoires de la province du Maniema. Il s'agit, pour ce qui est des écoles, d'une école à Lubutu, l'EP Guyeni, une école à Ponia, l'EP Tarumbeta, d'une école à Kailo, l'Institut Ambula, de deux écoles à Pangi, l'EP Butumba et l'EP Kikungwa, de deux écoles à Kasongo, l'EP Lukolo et l'EP Lusuna, de deux écoles à Kibombo, l'EP Abasi, l'EP Mambo, et une école à Salamabila qui s'appelle l'EP Kimbaseke, ce qui nous fait un total de 10 écoles sur toute l'étendue. Concernant les centres de santé, à réhabiliter, le PADRIR réhabilitera le centre de santé de Sanzasilia Lubutu, les centres de santé d'Obea à Punia, les centres de santé Kasenga à Kailo, les centres de santé de Kenye et les centres de santé de Katumpi à Pangi, les centres de santé Kunda à Kunda, un bloc à l'hôpital général de Kibombo, ainsi que les centres de santé d'Amsini dans les territoires de Kabambare. Dans la même répartition, nous aurons des centres nutritionnels pour tous nos amis de Lubutu, ça sera à l'hôpital général de Bokote, pour Punia, ça sera au centre de santé de Piala, pour Kailo, au centre de santé de Kasenga, pour Pangi, au centre de santé de Kakuchade, pour Kasongo à l'hôpital général de Samba et au centre de santé de Bikenge. Pour le Kibombo, c'est à l'hôpital général de Kibombo et pour Kabambare, c'est au centre de santé de Amsini.
Alors, qu'est-ce qui justifie les choix de ces sites?
Dans le cadre de PADRIR, vous voyez, comme nous sommes d'un programme à vocation agricole et nous œuvrons dans le développement des chaînes de valeur agricole. Les données recueillies au terrain permettant de cibler le plus grand nombre de mélanges agricoles afin d'améliorer leurs conditions sociales ont été les données motrices nécessaires pour nous amener à ces ciblages. En gros, c'est un ensemble d'événements qui sont partis des services techniques spécialisés pour chaque domaine. On parle ici de la province éducationnelle, de la Direction provinciale de la santé, du Programme national de nutrition et des missions de terrain qui ont été menées pour cibler ces données. À l'issue de ces ciblages géographiques dans les bureaux, une commission de validation a été mise en place. À l'issue de la sélection qui ont encadré ces ciblages, on est arrivé à cette sélection et ces sélections étaient basées souvent sur les données de terrain, l'accès aux semences tirables, les données de population et aussi dans la visibilité des actions du PADRIR dans la région.
Qu'en est-il alors des pistes rurales? Votre objectif et souci, c'est le développement intégral des populations.
Pour ce qui est des pistes rurales, le PADRIR avait sélectionné des axes prioritaires dans la province de Maniema et ça, c'est dans les territoires de Kailo et dans les territoires de Kasongo. Et on a ces deux axes, il s'agit des tronçons Kunda, Bikenge pour une linéaire de 80 km et aussi Kailo et Lila pour 33 km. Le PADRIR veut développer à travers de ses axes pilotes le développement intégral des chaînes de valeurs agricoles. Et le PADRIR a suivi les étapes nécessaires de passation des marchés pour contractualiser avec un cabinet international qui a conduit les études techniques sur ces axes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de valider ces études qui ont été faites dans les normes nécessaires, dans les normes internationales et dans les conditions optimales.
Et l'étape suivante, c'est laquelle?
L'étape à suivre, madame, ça sera d'ici là le lancement de l'appel d'offres au niveau national pour recruter des entreprises et des structures capables pour mener les travaux de construction. Et toutes ces études ont été faites en collaboration avec la structure étatique responsable de route de dessertes agricoles. Nous nommons ici l'Office de voie de dessertes agricoles OVDA.
Qu'en est-il alors des forages? C'est au total combien?
Pour le forage, nous avons 20 forages répartis sur les 7 territoires. territoire. L'idée, il s'agit ici des grandes infrastructures, c'est-à-dire des forages équipés en système solaire pouvant desservir jusqu'à minimum 800 000 personnes pour le 20 sites de forage. Et pour ce qui est des descentes sur terrain, les descentes de sélection ont été faites par le PADRIR accompagné des services techniques spécialisés et la validation des sites de forage a été faite par le comité provincial de coordination et de suivi du PADRIR qui est chapeauté par le ministère provincial de l'agriculture.
Monsieur Roland Guichot, merci.
Merci madame.
Cet entretien entre Roland Guichot et Florence Kizalunga met fin à cette édition coordonnée par Pauline Moussalia et mise en onde par Pierre Diassinois. Merci de l'avoir suivi.